Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, les députés du Parti québécois ne pourront pas siéger avant Noël, semble-t-il, et il est dénoncé ce fait par l'avocat constitutionnaliste Maxime Laporte dans notre premier segment. Notre deuxième segment. Ce dernier est bien sûr favorable à l'abolition du serment au roi Charles III, mais il estime que la méthode choisie par le gouvernement risque d'entraîner une contestation, laquelle pourrait avoir effet de forcer les trois députés péquistes à rester en dehors du Salon Bleu beaucoup plus longtemps encore. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Rémi Nadeau.
Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
Antoine Robitaille.
On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm-hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
La rencontre.
Un jour, on fera notre débat.
Oui, bien sûr.
Métal sur métal.
C'est le moment de vérité.
La rencontre. Nadeau Robitaille.
Mais bonjour, Rémi Nadeau.
Bonjour, Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal qui a eu la broue dans le toupette aujourd'hui, mercredi. C'est toujours très chargé à l'Assemblée nationale.
Ouais, de bonnes journées avec les conseils des ministres. Conseil des ministres, période de questions, les scrum, à n'en plus finir, les points de presse.
Protecteur du citoyen. Vérificateur général. Aïe. Mais j'en parlais en introduction, Rémi. Les députés du Parti québécois craignent une hypothèse que tu avançais hier ici à ce micro. Soit qu'il ne pourrait pas siéger avant Noël?
Oui, et ils ont l'impression que c'est voulu, là. Il aurait pu y avoir une façon de faire différente et que, par exemple, ce soir, il y a des travaux au Salon Bleu et qu'on fasse l'étude article par article très rapidement du projet de loi qui a été présenté.
Puisqu'il n'y a qu'un seul article.
C'est ça.
Il est simple, ce projet de loi 4 qui abolit le serment.
Mais j'ai revérifié avant de venir en onde et avec les autres partis, parce que du côté du cabinet du leader Simon-Jolin Barrette, là, il y avait pas vraiment d'informations à nous donner, mais je vérifiais, il y a aucun signal là, comme quoi il y aura des travaux. On pense peut-être même pas demain. Donc ce à quoi ça ressemble, c'est que les partis, un peu comme je le soulevais hier, ont pas envie de voir les péquistes arriver au Salon Bleu de façon triomphante. C'est ça, vendredi. Et donc, ça s'enligne pour que vendredi matin, autrement dit, il y ait la période des questions au Salon Bleu. Par la suite, il va y avoir les vœux du temps des fêtes. Et après ça, on ajournerait la période des affaires courantes. Et là, ben c'est peut-être dans l'après-midi qu'il y aurait rapidement là l'étude et le vote final. Et là, le projet de loi serait adopté, mais les péquistes n'auraient pas pu faire leur tour au Salon Bleu.
Oui, et on ne sait pas quand il prend effet, ce projet de loi-là. C'est pas encore précisé.
Exact.
Dans la loi, on sait pas, là. Souvent, c'est 30 jours, donc,
Alors, Pascal Bérubé était à côté de Joël Arsenault ce matin pour le point de presse du Parti québécois avant, justement, la période de questions. Et c'est lui qui l'a soulevé, le fait que, ben, on aimerait ça, hein, nous aussi, pouvoir faire nos vœux de Noël. Puis, il profitait de cet élément-là. Mais de façon générale, il voudrait rentrer au Salon Bleu. On va écouter ce qu'il a dit dans le cadre de ce point de presse.
Est-ce qu'ils vont attendre à vendredi après-midi pour être sûr qu'on siège pas? Parce qu'on n'a pas d'indication sur le moment des travaux. Nous aussi, on aimerait ça aller faire les vœux de Noël le vendredi. Il y a aucune raison que ça soit pas traité aujourd'hui, par exemple, pour un vote demain ou un vote jeudi. Nous, on souhaite vendredi entrer. La démocratie fait en sorte qu'on doit poser des questions. On représente 600 000 personnes. On souhaite terminer la session. Mais si il fallait que le leader du gouvernement s'organise pour que, par exemple, ça soit traité après les affaires courantes vendredi, ben là, il n'y aurait pas de possibilité d'entrer. Mais je suis sûr que c'est pas ce genre de gars-là.
Passons maintenant, Rémi, à l'analyse sportive de la période de questions.
Oui.
Et Et tu vois poindre une rivalité naissante?
Oui, ça va être le fun de regarder les affrontements entre Marois Risky et Bernard Drainville. On l'avait prédit, et puis bon,
la flamboyante députée libérale de Saint-Laurent.
Voilà, Madame Risky n'était pas...
Et le flamboyant ancien animateur de radio.
Oui, et ex-péquiste. Et puis, Madame Risky, on l'a souligné hier, elle n'était pas là la semaine passée. Elle a fait sentir sa présence, et ça a été vraiment, tu sais, un affrontement souriant entre les deux. Madame Risky a déposé un projet de loi, d'ailleurs.
Elle brasse de l'air.
Oui, c'est ça. Elle a ramené la qualité de l'air dans les écoles à l'avant-plan. On s'en doutait. Le projet de loi, donc, veut faire en sorte que la limite soit fixée à 1000 ppm, alors que là, on permet de... En fait, c'est comme si on disait qu'à 1500, c'était correct, même si pourtant, c'est pas la cible idéale. Alors, elle a ramené ça, sa verve, je dirais, habituelle.
Oui.
Et ce qui a été drôle, donc, c'est que Bernard Drainville avait salué son retour au Salon Bleu. Puis là, c'est comme s'il disait, ben je la salue encore, mais en même temps, il avait l'air de dire, bon, mon Dieu, ça va être difficile. On n'a pas fini de se coltailler. On va écouter donc l'extrait de entre les deux.
Moi, je veux savoir, lorsqu'on devient politicien à nouveau, est-ce que le journaliste revient avec lui? Parce que lorsqu'il était à la radio, il disait qu'il comprenait pas pourquoi son prédécesseur était boqué sur la question de la ventilation.
Votre réponse, Monsieur le ministre de l'Éducation.
Madame la Présidente, j'ai salué le retour de la députée de Saint-Laurent et je réitère mes salutations. Mais la semaine passée, quand on a rendu public le rapport sur la ventilation, elle a salué le rapport, elle a salué la sortie. Alors là, aujourd'hui, elle a l'air de dire que finalement, la sortie n'était pas si bonne que ça.
et c'est vrai dans le sens que Mme Risky saluait, dans le fond, je me sens qu'elle parlait d'un vent de fraîcheur parce qu'elle disait, bon, M. Drainville, lui, en fait une priorité, la qualité de l'air, alors que M. Roberge, il trouvait, lui, que c'était comme l'acharnement quand il y avait des questions à son endroit.
Il avait dit que c'était gonflé à l'hélium dossier.
Oui, exactement. Ouais. Mais là, effectivement, M. Drainville a raison de souligner que Mme Risky est revenue avec l'aspect beaucoup plus critique sur... ce côté-là.
J'ai trouvé que Nathalie Roy avait pas mal d'autorité.
Ouais.
Déjà, dans quelques moments, on va voir quand ça va vraiment brasser. C'est un petit aparté que je voulais amener. Parce que dans cette période de questions, je trouve que c'est une arbitre qui risque d'être efficace.
Ben en tout cas, je partage ton constat préliminaire, on va appeler ça comme ça, parce que moi aussi j'ai trouvé qu'à date ça a l'air bien parti. Mais évidemment, il n'y a pas encore eu de grandes chicanes là au Salon Bleu, mais ça c'est bien parti. Je trouve qu'elle fait bien ça pour l'instant.
La révélation du jour?
Oui, mais de temps en temps, on apprend de nouvelles choses pendant la période de questions au Salon Bleu. Et là, c'est Linda Caron, la députée libérale de la Lapinière, qui, dans le fond, c'est sûr qu'elle passait un peu le gant au visage de la ministre Sonia Bélanger, responsable des aînés.
Deux nouvelles politiciennes.
Et Linda Caron a sorti, en puisant les informations dans le rapport du commissaire aux plaintes du CIUS de sud de l'île de Montréal, où était Mme Bélanger, où elle était PDG. Et bon, elle a sorti l'information comme quoi, sous le règne de Mme Bélanger, il y a eu comme davantage de plaintes pour maltraitance qui ont été traitées. donc, ça a quadruplé, en fait. C'est ça qu'elle a révélé au Salon Bleu. Et ce qui est particulier, c'est que, évidemment, ça place Mme Bélanger sur la défensive. Linda Caron a dit, comme fait un peu le lien en disant, mais comment elle pourra passer le message dans le réseau comme ministre responsable, alors que elle, sous son règne au CIUS, ça a augmenté. Bon, c'est un peu boiteux, là.
Oui.
Il n'y a pas de lien direct.
Parce que des fois, quand il y a plus de plaintes, ça veut pas dire qu'il y a nécessairement une situation problématique. C'est peut-être que les gens ont plus conscience qu'ils doivent déposer des plaintes.
Ouais, puis bon, et ce qui est particulier, c'est que Mme Bélanger, elle a dit qu'elle s'y attendait à cette question-là. Mais pourtant, sa réponse était un peu évasive.
Elle avait l'air fâchée. Hein?
Ouais, elle n'a pas expliqué.
Elle avait l'air vraiment choquée.
Elle n'a pas expliqué pourquoi ou qu'est-ce qui aurait pu expliquer ça. Elle a juste dit, on a fait preuve de transparence. Puis, elle a lancé une pointe à Mme Caron en disant qu'elle maîtrisait pas bien son dossier.
Oh, déjà?
Puis, elle l'a pas expliqué pourquoi. Là.
Non.
On va écouter Linda, pas Linda, mais dis-je bien Sonia Bélanger qui a répondu à la critique libérale.
Je pense que c'est important de mentionner que des situations de maltraitance, malheureusement, dans le réseau de la santé et des services sociaux, il y en a. Et quand il y en a, Ce qui est le plus important, c'est que la commissaire à la qualité et aux plaintes dans nos organisations soit en mesure de divulguer de façon transparente au comité vigilance qualité qui relève des conseils d'administration les dites plaintes. Et c'est ce qui a été fait au CIUSSS du Centre-Sud.
On voit que Mme Bélanger maîtrise bien la langue du CIUSSS. C'est comme une langue particulière.
Oui, t'as raison. Hein? Avec ses...
Une langue administrative.
Oui. Oui, effectivement, totalement. Et donc, elle a insisté donc sur l'aspect transparence là dans le cadre de sa réponse. Mais visiblement, c'est ça. Je pense que
t'as pas l'air convaincu par la réponse.
Non. Et, mais les libéraux ont profité de ça. Et quand je pense que quand ils ont tombé sur cette information-là, ils ont dit tiens, on va la mettre mal à l'aise avec en le sortant au Salon Bleu.
Donc, ça va être un sujet qui va revenir sans doute. Et on voit que les libéraux sont ont commencé, comment dire, en Lyon, là, ils ont déposé des projets de loi et j'ai trouvé qu'il avait pas l'air aussi, comment dire, sonné qu'on aurait pu le croire. Hein.
T'as raison, parce que c'est sûr que les premiers caucus sont pas dus être très plaisants, ouais, c'est ça. Puis pour les nouveaux, étant donné que c'était tendu, mais la plupart, je trouve, qui ont posé des nouveaux là, qui ont posé des questions cette semaine, comme Brigitte Garceau, notamment, je trouvais qu'elle avait beaucoup d'aplomb.
Oui, en famille. Oui.
Exact. Alors, ça semble quand même bien se dérouler pour l'opposition officielle à venir jusqu'à maintenant.
Merci Rémi Nadeau, on se reparle demain.
À demain.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchand d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous.
Le projet de loi 4 pour rendre facultatif le serment royal a été déposé hier. On en discute avec un constitutionnaliste qui est favorable à l'abolition de ce serment, mais qui a plusieurs appréhensions quant à son application. C'est Maxime Laporte. Bonjour.
Bonjour, Antoine Robitaille.
Donc, constitutionnaliste, ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Alors, tout indique que la loi ne sera pas adoptée à temps pour que les trois députés du Parti québécois siègent avant Noël.
En effet, ben écoutez, dans ce dossier-là, on dirait que la CAQ fait tout pour que ça foire. Là. Ça ressemble, encore une fois, à une espèce d'entourloupette. Ça ressemble à de la petite politique et je le déplore. Depuis le début de cette affaire, on semble vouloir faire languir et languir encore là, les députés péquistes là, dans les limbes parlementaires.
Mm-hmm.
On nous avait annoncé qu'ils pourraient siéger dès cette semaine, ou en tout cas que la problématique serait réglée dès cette semaine. Hier, en point de presse, le ministre Roberge a dit finalement que, bon, c'est l'adoption du projet de loi qui aurait lieu cette semaine, mais il est resté très, très vague sur la question de la sanction. Donc, quant au moment où il ferait sanctionner ce projet de loi par le lieutenant-gouverneur, mais il a tenu à insister, du reste, pour dire que les députés péquistes ne pourraient siéger qu'après la sanction. Or, évidemment, si la sanction a lieu après la levée de la séance vendredi, eh bien, l'accomplissement de l'acte souhaité, espéré et voulu par tant de Québécois n'aura pas lieu. Et ça soulève toutes sortes de questions, hein, puisque dans la mesure où la loi entre en vigueur, disons, pendant le congé des fêtes,
mm-hmm.
est-ce que là cette loi pourrait être contestée devant les tribunaux, suspendue de manière immédiate, un peu comme ça s'est produit dans le dossier de la loi 96 plus tôt cette année? Donc, c'est pour ça que...
Rappelez-le-nous, parce que c'est pas tout le monde qui a ça à l'esprit, là.
Ben, en effet, ben, vous savez, dans la contestation, une des contestations constitutionnelles de la loi sur le français, langue officielle, langue commune, eh bien, la Cour supérieure là a suspendu plusieurs dispositions de cette loi de manière, là, comme on dit dans le jargon, interlocutoire, c'est-à-dire de manière immédiate. Et bon, et là, je mets ça au pire. J'espère que, évidemment, que ce ne sera pas le cas. Et ce serait un nouveau scandale là, qui s'ajoute au scandale.
Si je comprends bien, Maxime, vous dites que si elle est contestée pendant le temps des fêtes, on pourrait finalement empêcher les députés du Parti québécois de siéger à partir du 31 janvier, là, ce qui est le retour à la Chambre, là, qui est retour au Salon Bleu.
Ben, c'est un risque qui est là. Écoutez, j'espère de tout mon cœur que ça n'advienne pas, mais c'est un risque qui est là et je peux pas croire que le gouvernement n'ait pas mesuré ce risque. Et à le voir aller, ce gouvernement, depuis le début de cette affaire, comme je le disais précédemment, ça ressemble à de la politique ou à tout le moins à une conduite qui m'apparaît pas diligente et dans les circonstances et vu l'intention de ce même gouvernement de régler cette affaire, de mettre cette affaire derrière lui. La décision, premièrement, de procéder par une loi ne lui permettra pas d'atteindre cet objectif. Et d'autre part, là, on vient étirer la sauce. C'est franchement déplorable.
C'est comme si on se hâtait lentement, pour reprendre les mots de Boileau.
Ah, en effet. c'est peut-être le paradoxe de notre condition politique, se hâter lentement. Plus lentement que hâtivement.
Mais lentement pour empêcher des adversaires politiques de siéger en chambre, dans le fond.
Ben, ça ressemble à ça. Franchement, ça ressemble à ça. Je rappelle que dans ce dossier, il aurait été infiniment plus simple, plus rapide et surtout plus sûr juridiquement de procéder par la voie parlementaire.
OK, justement. Ah, mais je vous arrête, Maxime. Il faut expliquer là comment le gouvernement, lui, a décidé de procéder dans son projet de loi numéro 4.
Le gouvernement de la CAQ a décidé de procéder par une modification formelle à la loi constitutionnelle de 1867. Son projet de loi tient en un seul article, essentiellement, qui énonce que l'article 128 de la loi de 1867 prescrit la prestation par nos députés du serment au roi, et bien que cet article 128 ne s'applique pas au Québec. Et là, il y a tout un débat, toute une réflexion à mener sur la question de savoir si le Québec a compétence pour modifier à lui seul ses dispositions, en tout cas pour ajouter l'article qu'il souhaite ajouter à la suite de l'article 128 dont je viens de parler. Donc
c'est un article qui existe, qui devrait s'appliquer à toutes les législatures, comme on le dit, donc à toutes les assemblées dans les provinces?
Pour ma part, je doute dans ce cas-ci que cette approche soit la bonne. Je pense que les risques sont très élevés que les tribunaux canadiens en viennent à la conclusion que le Québec n'a pas compétence pour procéder de la sorte à lui seul, que cet article, on peut pas le rendre comme ça inapplicable, le vider de son sens, donc dans sa dimension formelle, et que en fait pour le modifier ou pour modifier son contenu, ben il faut probablement procéder par la formule 750,
oui.
C'est-à-dire qu'il y a une majorité de 7 provinces représentant au moins 50% de la population du Canada.
Ça fait partie des modifications constitutionnelles, ça fait partie de la mécanique des modifications constitutionnelles, mais dans la loi 96 là, qui a été adoptée ce printemps, on modifie la Constitution et le texte constitutionnel par le truchement de cette méthode-là, pour indiquer que le Québec est une nation puis que sa langue officielle, sa seule langue officielle, c'est le français. Ça semble pas être contesté devant les tribunaux.
Ce l'est, sauf erreur, en ce moment. L'ajout de la nation à la loi, donc la mention de la nation québécoise. Bon. Et pour ma part, cette modification-là, moi, je l'ai appuyée. Je pense qu'elle peut passer le test. Bon, mais c'est un autre débat.
Ouais.
Dans le cas
du serment, vous auriez préféré, vous, une autre méthode?
Voilà, donc l'autre méthode, et je suis pas le seul à l'avoir proposé, je pense qu'il y a une majorité d'experts, de constitutionnalistes qui se sont exprimés jusqu'ici, qui ont fait valoir ce point de vue, c'est-à-dire que l'on procède par la voie parlementaire. Hein. Cette obligation pour nos députés de prêter serment au roi, en elle-même, là, elle n'est ni vraiment effective, ni vraiment impérative. Hein. D'une part, la Constitution ne prévoit aucune sanction hein, pour l'élu qui se soustrairait là, à ce test d'allégeance. Et d'autre part, la mise en œuvre de cette obligation relève à part entière de la régie interne de l'Assemblée nationale.
Oui.
Ça tombe bien parce que l'Assemblée nationale jouit du privilège absolu de décider de sa régie interne. Même une maxime latine qui en témoigne, mais rassurez-vous, je vais m'abstenir.
Bernard Landry sort de ce corps.
Ouais, je vais pas faire Bernard Landry moi-même. Bon, et il faut dire que tout ce qui relève de la régie interne de l'Assemblée nationale échappe en principe au contrôle des tribunaux. En revanche, une loi comme celle que souhaite faire adopter le gouvernement Legault dans le dossier du serment, une loi n'est jamais à l'abri d'un contrôle judiciaire au Canada.
Donc, juste pour l'expliquer aux gens, là, vous auriez pas non plus appuyé la formule qu'a choisi Sol Zanetti de Québec solidaire dans son projet de loi. Lui, il voulait modifier la loi sur l'Assemblée nationale, si je ne m'abuse.
Non plus. Un peu pour les mêmes raisons, mais bon. En somme, là, selon la majorité des experts qui se sont prononcés à ce jour, la meilleure méthode pour se débarrasser de ce fameux test d'allégeance, là, c'est d'accomplir un acte parlementaire, qu'il s'agisse d'une résolution, qu'il s'agisse d'un changement de fait tacite dans la pratique de l'Assemblée nationale. Et sans qu'on sache trop pourquoi, la CAQ a plutôt choisi, au fond, de renoncer à cette souveraineté de l'Assemblée nationale sur sa régie interne.
Mm-hmm.
Pour moi, est limite scandaleux. Et la CAQ s'obstine à vouloir procéder au moyen d'une loi, ce qui, à tout fait pratique, revient à pelleter directement le problème dans la cour des tribunaux canadiens. Et je regrette, mais les tribunaux en question, qui jugent en droit, risquent fort de la déclarer invalide, cette loi, pour toutes sortes de raisons. Si bien qu'au bout de ce processus et de cette perte de temps, on pourrait se retrouver dans une situation où on va être de retour à la case départ. Puis à ce moment-là, ben, je vous parie qu'on va en entendre dire à plusieurs « Ah, ben on aurait donc dû procéder par la voie parlementaire plutôt que par la voie législative. » Mais bon, ça peut paraître un peu mécanique et technique, mais on voit que ça a des conséquences très, très concrètes, hein, puisque cette voie législative qu'a choisi, qu'a privilégié la CAQ, s'accompagne aussi d'un choix, d'une interprétation des choses qui, moi, m'apparaît très rigide, voire autoritaire, et il s'agit, encore une fois, d'un renoncement à la souveraineté de l'Assemblée nationale, et ça a des conséquences. Hein. Conséquences, c'est qu'on ferme la porte du Salon Bleu au nez de députés dûment élus.
Oui.
On leur interdit d'exercer leurs fonctions.
Mais ça fait les délices des autres partis. Je veux pas être cynique, mais ils s'en réjouissent. Ils ont un petit peu plus de questions, pas beaucoup, parce que la PQ en avait pas beaucoup. Puis ils ont moins de lumière.
Ben, écoutez, moi, je trouve ça gênant, voire honteux, là, qu'on fasse là, comme ça de la petite politique là, sur le dos, au fond, du principe démocratique, sur le dos de la dignité, de notre dignité nationale, finalement.
Mmh.
Et bon, pour revenir à la situation actuelle, puisque bon, je vous ai parlé de la voie parlementaire qui aurait dû et qui devrait être privilégiée.
Oui. Maxime.
La CAQ a écarté cette voie. Et là, on revient un peu à la discussion du départ, le problème que ce projet de loi risque d'être sanctionné après la levée de la séance vendredi,
ouais.
Ce qui va empêcher les péquistes d'accomplir l'acte parlementaire qui pour moi, est ce qui génère vraiment ce changement de règles.
Et le lieutenant-gouverneur, qui lui est le représentant royal, peut-être qu'il va faire traîner les choses aussi? On a déjà vu des lieutenants-gouverneurs prendre congé ou être signer des lois sur des terrains de golf un peu contrariés. Même chose dans des parkings de Walmart, m'a-t-on dit une fois, dans le cas de Lise Thibault. Mais en tout cas, c'est possible ça aussi.
Sait-on jamais, en fait, les écueils associés à la voie législative qu'a privilégié la CAQ sont très nombreux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une ultime solution pour tenter de sortir de cette impasse consisterait à ce que, en fait, les trois mousquetaires péquistes, là, sont autorisés à siéger dès l'adoption de la loi. Dès l'adoption de la loi, donc jeudi ou vendredi, puisqu'après tout, la motion qu'a fait adopter Québec solidaire, c'était le 29 novembre dernier, adoptée à l'unanimité, cette motion prévoit que le serment devienne facultatif, je cite, suivant l'adoption du projet de loi. Et donc,
j'imagine que les personnes concernées ont entendu cet appel. Merci beaucoup, Maxime Laporte.
Bien, je vous remercie, je vous en prie, au plaisir.
Je rappelle que vous êtes avocat constitutionnaliste et ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Et c'est tout pour La Haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.